Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'hémorragie se poursuit chez les Républicains après leur défaite aux européennes. Plusieurs élus locaux ont décidé de rallier la majorité présidentielle. Leur initiative porte surtout l'espoir en réalité de ne pas avoir de candidat LREM face à eux lors des prochaines élections municipales.
12 orphelins français de familles djihadistes ont été remis hier à une délégation française par les autorités kurdes de Syrie.
Oui, les enfants vivaient tous dans des camps du nord-est du pays, là où des dizaines de milliers d'autres personnes ayant fui les offensives contre le dernier bastion de Daesh ont été recueillis.
Rien ne semble pouvoir arrêter Boris Johnson, présenté comme le grand favori parmi les candidats à la succession de Theresa May.
Au total, 11 candidats devraient être officiellement s'enregistrer aujourd'hui dans la course pour diriger le parti conservateur et ainsi décrocher le poste de Premier ministre. Au Brésil, les procureurs de l'enquête anticorruption Lavage à Tour auraient-ils comploté sur les moyens d'empêcher le retour de l'ex-président de gauche Lula au pouvoir l'an dernier? C'est en tous les cas ce que rapporte un site d'investigation sur la base de fuites potentiellement explosives. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes. Élodie Martinez, correspondante de l'AFP à Buenos Aires et coordinatrice du projet Reverso, la plus vaste alliance créée à ce jour pour lutter contre la désinformation lors d'un processus électoral. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Alger, ville carrefour et ville révolutionnaire, ça c'était dans les années 60. Elle a été prise dans l'effervescence des luttes anticoloniales et antifascistes aussi dans ces années-là. Elle y a rencontré Frantz Fanon ainsi que des représentants des Black Panthers. L'américaine Hélène Moctefi nous raconte ce parcours incroyable dans la deuxième partie de l'émission. Elle sera donc avec nous dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Si parfois la monotonie des coassements peut lasser, surtout lorsqu'ils sont rapprochés dans les eaux marécageuses de la politique aussi, il arrive que de mystérieuses respirations se fassent entendre avec une certaine régularité. Hier, 72 maires et élus locaux de droite et du centre ont annoncé dans une tribune leur soutien à Emmanuel Macron. Cet ultime écho de la débâcle des Républicains aux européennes après la démission de leur chef de file, Laurent Wauquiez, ainsi que le départ de Valérie Pécresse et de plusieurs de leurs cadres sonne donc comme un nouveau coup dur pour LR, dont l'espace politique, sorte de marigot coincé désormais entre LREM et le Rassemblement National, ne cesse de rétrécir depuis 2 ans. Alors pour être tout à fait précis, si parmi ces signataires on trouve donc des LR mais aussi des UDI et des Agir, plus de la moitié d'entre eux n'appartiennent pas aujourd'hui à un parti politique. En revanche, tous ont en commun de dire que l'opposition systématique ça suffit, qu'il faut désormais laisser le président, le gouvernement travailler. Et puis surtout, plus qu'une adhésion en règle à La République En Marche, le ralliement de ces élus porte en réalité plutôt l'espoir de ne pas avoir de candidat du parti présidentiel face à eux au municipal. Bref, une sorte d'accord gagnant-gagnant. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans le champ de la vaste recomposition du paysage politique français, on aura compris que la perspective des prochaines échéances électorales n'est pas neutre dans la décomposition avancée de la droite. Pour autant, non seulement beaucoup de ses signataires avaient déjà pris leur distance avec les Républicains, mais surtout La République En Marche ne récupère au fond dans ses filets que très peu des gros poissons de la droite.
Oui, on aurait pu croire que Christian Estrosi, par exemple, se joigne à cette longue liste, lui qui a demandé il y a quelques jours des coalitions pour les municipales entre les Républicains et La République En Marche, lui qui a critiqué aussi le sectarisme des Républicains après le score fatal du 26 mai dernier. Mais le pas n'a pas été franchi. Sociologie électorale oblige, le maire de Nice reste au bercail et d'autant plus qu'il risque d'être challengé par le député Éric Ciotti, plus droitier, qui pourrait se présenter aux municipales de l'an prochain. On aurait pu croire aussi que le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui est l'un des maires des grandes métropoles jugé le plus Macron compatible, cède également aux sirènes de La République En Marche, mais là aussi pas de ralliement. Même situation à Reims où le maire Les Républicains Arnaud Robinet, proche pendant quelques temps du président, reste chez LR même s'il pourrait se présenter sans étiquette, a-t-il expliqué la semaine dernière. Il n'en fallait pas plus pour la porte-parole des Républicains, Laurence Salier, pour relativiser donc cette fuite des élus locaux et d'autant plus qu'il y a eu selon elle du racolage électoral de la part de La République En Marche, de nombreux coups de fil, c'est vrai, passés aux élus Les Républicains pour tenter de les faire venir. Ce matin, sur LCI, Aurore Berger, la porte-parole du parti LRM, elle-même ancienne LR, s'est défendue de tout plan concerté pour faire exploser la droite. Mais le camp présidentiel, c'est sûr, va scruter avec attention cette semaine le vote des sénateurs et des députés LR sur la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe, histoire de mesurer pratiquement si mouvement de transfert, voire effet de balancier, il y a bien.
Merci Anne Fauquemberg. Et que dire à présent de la décomposition à l'œuvre du côté de la France insoumise après que Clémentine Autain a co-signé avec une quarantaine d'autres cadres un message dénonçant en interne les dysfonctionnements du mouvement. Charlotte Girard a annoncé ce week-end qu'elle arrêtait sa participation au parti de Jean-Luc Mélenchon, aggravant ainsi un peu plus encore les doutes qui rongent aujourd'hui le leader de la France insoumise, tout particulièrement depuis son mauvais score des élections européennes. Quoi qu'il en soit, et bien que visé par toutes ces critiques, le leader des insoumis n'a toujours pas jugé utile de s'exprimer. Quand synergie rime avec chinoiserie ou presque, Nissan a confirmé ce matin avoir reçu une lettre de son partenaire Renault, dans laquelle le constructeur français fait état de son intention de s'abstenir lors de votes relatifs au changement de gouvernance que le groupe japonais proposera lors de son assemblée générale, une abstention qui le cas échéant bloquerait donc l'adoption de cette réforme puisqu'elle doit obtenir la majorité des deux tiers pour être approuvée. Nissan a immédiatement qualifié la nouvelle position de la marque aux losanges sur le sujet de hautement regrettable, tout en précisant que celle-ci allait à l'encontre des efforts entrepris par le constructeur pour améliorer sa gouvernance. Ils sont 12 orphelins français de famille djihadiste, avoir été remis hier à une délégation française par les autorités kurdes de Syrie. L'opération s'est déroulée dans une localité près de la frontière avec la Turquie, dans l'un de ces nombreux camps où des dizaines de milliers de personnes ayant fui les offensives contre le dernier bastion du groupe Daesh ont été recueillies. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Ces 12 enfants, dont le plus âgé a 10 ans, sont arrivés ce matin à Paris et tous vivaient donc dans des camps administrés par les autorités kurdes.
Et ces autorités, depuis plusieurs mois, réclament le rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes étrangers. Les cas se comptent par milliers. Les pays concernés sont nombreux. C'est donc un casse-tête diplomatique pour cette administration qui aimerait gérer le problème au plus vite. Elle est menacée par les régimes syriens et turcs qui sont farouchement opposés à l'autonomie kurde. Une autonomie encore plus menacée après l'annonce du retrait prochain des troupes américaines de Syrie. Et ce qui complique encore plus la tâche des autorités, c'est que parfois les enfants concernés ne sont pas nés dans le pays d'origine de leurs parents, mais sur le territoire occupé par l'État islamique. Ils n'ont pas forcément de certificat de naissance reconnu. Néanmoins, des rapatriements d'orphelins ont lieu sous la pression des autorités kurdes. Et pour des raisons humanitaires évidentes, ces enfants sont entassés dans des camps surpeuplés, dans des conditions souvent très difficiles. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a d'ailleurs demandé à la France de rapatrier sans condition ces enfants détenus en Syrie, sans procéder au cas par cas. C'est peut-être l'explication de ce nouveau rapatriement d'enfants orphelins. Ils ont atterri à l'aéroport de Villacoublay dans la matinée, selon le ministère des Affaires étrangères. Parmi eux également, deux Néerlandais qui seront remis aux Pays-Bas.
Merci Antoine Marette. La manifestation monstre hier dans les rues de Hong Kong n'y aura rien changé. Le gouvernement pro-Pékin a réitéré ce matin son refus d'enterrer son projet de loi controversé qui permettra les extraditions vers la Chine. Plus d'un million de personnes avaient pourtant défilé la veille pour protester contre ce texte qui, selon ses détracteurs, risque de placer la population à la merci d'un système judiciaire chinois opaque et politisé. Alors voilà une dizaine d'années maintenant que l'ex-colonie britannique est le théâtre d'une forte agitation en raison de l'inquiétude que génère l'ingérence grandissante de Pékin dans ses affaires intérieures. Mais pour être tout à fait exact, précisons tout de même que la chef de l'exécutif a accepté d'envisager quelques modifications à son projet de loi. C'est une correspondance signée Florence de Changy.
La concession la plus importante que la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, vient d'accorder aux opposants au projet de loi consiste à exiger que, en cas d'extradition, la juridiction qui réclamera un suspect s'engagera à respecter ses droits élémentaires. Jusqu'à présent, le gouvernement de Hong Kong avait refusé de mettre cette clause explicitement dans le texte. Répondant par ailleurs aux accusations que son gouvernement ne fait qu'obéir aux injonctions de Pékin, Carrie Lam a affirmé n'agir qu'avec sa bonne conscience et son engagement vis-à-vis de Hong Kong. De son côté, le parti Demosisto a lancé un sit-in pour bloquer le Parlement avant la session plénière qui doit entamer mercredi les débats sur ce projet de loi. Demosisto est le parti fondé par plusieurs des jeunes leaders pro-démocratie qui avaient participé au mouvement des parapluies en 2014 et qui sont toutefois interdits de siéger au Parlement en raison de leur proposition en faveur d'un référendum d'autodétermination. Ils estiment qu'une fois le débat engagé au Parlement, il ne sera plus possible d'interrompre la procédure qui suivra son cours jusqu'au vote, lequel pourrait intervenir dans les semaines à venir.
Dans un pays connu pour sa gouvernance autoritaire, l'issue des élections présidentielles organisées au Kazakhstan ne laissait que peu de place au doute, qu'on prenait peu d'espoir de voir la démocratie enfin triompher, sans compter que le président par intérim élu hier était lui-même soutenu par l'ancien chef d'État, Nazarbayev, lequel avait dirigé le pays sans partage pendant près de 30 ans. Alors certains se consoleront peut-être en notant par exemple que Kassym Jomart Tokayev n'aura remporté que 70% des voix, loin, très loin derrière les 98% obtenus lors du dernier scrutin par l'ancien président autocrate, ou bien encore en se félicitant qu'avec plus de 15% des suffrages, son plus proche rival a lui décroché le meilleur score jamais réalisé par un opposant dans une élection kazakh. Pour le reste, le scrutin aura surtout été marqué par d'importantes manifestations à travers le pays, les plus importantes depuis 3 ans, mais aussi de multiples arrestations. Au total, un demi-millier de personnes auraient été conduites dans les commissariats. En d'autres termes, si la démission en mars dernier de Nazarbayev avait permis au Kazakhstan d'être traversé par une agitation sociale rare, elle aura surtout provoqué in fine un raidissement des autorités. Autre transition politique vécue aujourd'hui comme une illusion, même si les protestateurs entendent bien maintenir la pression pour pousser les généraux à remettre le pouvoir aux civils. Au Soudan, 4 personnes ont encore été tués hier. En une semaine, le bilan de la répression s'élève désormais à 118 morts et plus de 500 blessés. Alors aujourd'hui, le mouvement de désobéissance civile décrété par la contestation, doublé d'une grève pour contraindre les militaires au pouvoir à faire des concessions, entre dans sa 2e journée. De quoi donner à la capitale, Khartoum, des allures de ville fantôme. C'est un reportage signé du correspondant de RFI pour France Culture, Sébastien Nemeth.
Magasins et administrations fermés, trafic et transport réduits, bienvenue à Khartoum, ville fantôme. Les rares lieux ouverts sont les commerces alimentaires, comme cette boulangerie où Mohamed travaille.
Les propriétaires nous ont demandé de travailler car les gens ont besoin de manger, sinon ils n'auront plus rien. En plus, je vis dans la boulangerie.
Quelques supermarchés ont ouvert également. Iman Tahab est étudiante et elle a séché les cours. Elle est venue approvisionner sa famille.
Les marchés extérieurs sont devenus dangereux, donc je viens ici, c'est couvert. J'achète en grande quantité au cas où, mais on ne peut pas stocker plus d'une semaine, car les prix sont trop élevés.
Soudain, des agents du renseignement en civil stoppent la conversation, mais finalement, après un court interrogatoire dans un bureau à l'écart, ils laissent tout le monde partir en donnant un bonbon en prime. Ahmad Ibrahim est justement un contractant privé travaillant pour les renseignements. Avec un faux nom et dans une voiture en mouvement, il explique pourquoi il refuse la grève. Son récit illustre la vision actuelle du pouvoir.
Bloquer le pays pénalise les citoyens. Dans l'alliance civile, chaque parti politique pense qu'il peut sauver le pays. Moi, je veux un pouvoir militaire qui stabilisera le Soudan. Les civils parlent de démocratie, mais ils sont radicaux. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux.
Il affirme que le massacre du sit-in n'a fait que 12 morts. Avec de telles idées, difficile de croire que la grève fera renoncer le conseil militaire à son pouvoir.
En Algérie, là-bas aussi, les contestataires frustrés se battent pour réussir leur mue politique et ne pas voir leur révolution confisquée par l'armée. Vendredi dernier, les Algériens se sont à nouveau massivement mobilisés pour dénoncer l'omniprésence du tout-puissant chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, incarnation du système Bouteflika. Autre crise en Moldavie, cette fois-ci l'ex-république soviétique a connu hier un de ces bouleversements politiques dont elle est coutumière et surtout point d'orgue d'une crise qui avait déjà commencé en février dernier. Lorsqu'à l'issue des élections législatives, aucune majorité claire n'avait pu émerger. Après des mois de négociations, le parti socialiste du président, pro-russe, avait fini par conclure un accord de coalition inédit samedi. Seulement voilà, la veille, la Cour constitutionnelle avait, elle, demandé la dissolution du Parlement et l'organisation de nouvelles élections, raison de l'impossibilité justement de former un gouvernement dans les 3 mois ayant suivi le scrutin. Or, le président ayant refusé de signer ce décret de dissolution, la Cour constitutionnelle a décidé de le suspendre de ses fonctions. Il a aussitôt été remplacé par son premier ministre et membre du parti démocrate adverse. Au Royaume-Uni, les principaux candidats au poste de Premier ministre britannique lancent leur campagne aujourd'hui. 11 candidats au total qui espèrent tous à la fois succéder à Theresa May à la tête du parti conservateur, mais aussi relever le défi du Brexit. Alors parmi les prétendants figure notamment l'actuel ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, lequel s'est dit convaincu hier qu'une renégociation était possible pour éviter une sortie de l'UE sans accord. Et puis le grand favori, c'est évidemment l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, l'un des grands artistes partisan de la victoire du Brexit au référendum de 2016 et qui lui entend bien faire partir son pays de l'UE d'ici au 31 octobre, accord renégocié ou pas. Hier, confirmant son parti pris de durcir les négociations avec Bruxelles, Boris Johnson est même allé jusqu'à menacer de ne pas payer la facture du Brexit, évaluée autour de 40 milliards d'euros, si l'UE n'accepte pas de meilleures conditions pour son pays. C'est une correspondance à Londres signée Antoine Gignot.
Un jour, une annonce. Ce week-end, Boris Johnson martelait « Nous ne payerons pas la facture de sortie de l'Union européenne ». Ce matin, dans sa chronique hebdomadaire publiée par le Daily Telegraph, il promet de faire baisser les impôts de 3 millions de Britanniques tout en continuant à alléger la fiscalité des entreprises. Le Royaume-Uni est passé d'un taux d'imposition de 28% en 2008 à 19% aujourd'hui. Et les sondages le montrent, l'ancien ministre et ancien maire de Londres est soutenu par les classes populaires, mais il lui manque l'appui des grands donateurs, des industriels qui contrôlent les finances du parti. Il n'est d'ailleurs pas le seul à faire des promesses économiques. À côté de lui, Esther McVie, ancienne secrétaire d'État au travail et qui prône, elle aussi, une sortie radicale de l'Union européenne, s'engage à renforcer les moyens de la police et de l'éducation nationale. Jeremy Hunt, l'actuel ministre des Affaires étrangères, modéré, affirme de son côté qu'il est encore possible de négocier un Brexit ordonné, un retrait pragmatique de l'Union européenne favorable aux entreprises. Et Michael Gove, lui, ne dit plus rien du tout. Le ministre de l'Environnement, encore parmi les favoris la semaine dernière, a passé le week-end à s'excuser après la sortie d'un livre qui raconte comment il a pris de la cocaïne lorsqu'il était jeune.
C'est l'autre va-t-en-guerre de la politique à la chevelure blonde peroxydée devenue emblématique. Donald Trump a déclaré hier qu'il dévoilerait en temps voulu les détails de l'accord conclu entre les États-Unis et le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine face aux menaces de se voir imposer des droits de douane de 5% sur ses exportations. Les autorités mexicaines ont, semble-t-il, choisi de se montrer coopératives. En l'occurrence, Mexico aurait accepté d'accueillir davantage de réfugiés qui demandent l'asile aux États-Unis, mais aussi de déployer la garde nationale le long de la frontière avec le Guatemala. Certains diront que c'est un épisode de plus dans le feuilleton de la tentaculaire enquête anticorruption Lavage à taux au Brésil, sauf que celui-ci pourrait bien se révéler une fois encore explosif. Selon le site d'investigation The Intercept, les responsables de cette enquête auraient manœuvré pour empêcher le retour de l'ex-président de gauche Lula au pouvoir l'an dernier. En clair, les procureurs qui n'ont pourtant jamais cessé d'assurer qu'ils étaient motivés par la seule lutte anticorruption auraient comploté, de quoi potentiellement battre en brèche la supposée nécessaire impartialité du juge. Moro, aujourd'hui ministre de la Justice du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, contre sa bête noire, l'ex-président Lula, qu'il avait condamné en première instance, c'était en 2017. Les explications d'Olivier Poujade.
Le site d'investigation dit s'appuyer sur un grand nombre de messages écrits, audio, vidéo, mais également des documents et des photos échangés en privé, notamment par le procureur en chef de l'opération Lavage à taux, Deltan Dallagnol, et le célèbre juge chargé de cette gigantesque affaire de corruption, Sergio Moro, actuel ministre de la Justice au Brésil. L'enquête, publiée en trois parties, accuse Sergio Moro d'avoir accéléré volontairement les procédures pour empêcher la candidature de Lula à l'élection. Les deux journalistes Glenn Greenwald et Victor Pougy évoquent également un complot caché, les doutes des procureurs eux-mêmes sur la culpabilité de Lula, des abus de pouvoir aussi à des fins politiques pour empêcher la victoire du Parti des Travailleurs à la présidentielle de 2018. Si les messages, les premiers messages publiés, ne sont pas aussi éloquents, certains révèlent les craintes partagées par les enquêteurs. Parmi eux, Laura Tessler s'inquiète par exemple que l'on puisse autoriser une demande d'interview de Lula juste avant le premier tour qui pourrait, écrit-elle, favoriser l'élection de Fernando Haddad, le candidat du PT. Dans une première réaction, Sergio Moro rejette ces accusations et regrette que l'identité de la source n'ait pas été dévoilée. Il estime que les messages publiés ont été sortis de leur contexte.
En Argentine, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 27 octobre prochain. Arrivé au pouvoir en 2015, le président de centre droit, Mauricio Macri, est en lice pour un second mandat. Sauf que le scrutin est encore indécis. À l'occasion donc de ces élections, près d'une centaine de médias et organisations ont décidé de s'associer pour lutter contre l'afflux d'informations fausses et malveillantes. Et pour en parler avec nous, invitée de la rédaction aujourd'hui, Elodie Martinez, correspondante de l'AFP à Buenos Aires et coordinatrice de ce projet Reverso qui doit être lancé cette semaine. Bonjour madame.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Et à mes côtés pour vous interroger, Nadine Epstein. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Alors l'afflux de fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux, notamment au cours de la dernière campagne présidentielle aux États-Unis ou bien encore celle du Brexit au Royaume-Uni, avait déjà conduit en réalité à l'émergence de ces alliances de vérification d'informations, mais jamais donc dans de telles proportions, c'est bien ça ?
Exactement, c'est la plus grosse alliance qui ait été créée jusqu'à présent. On a à ce jour 107 médias qui se sont engagés à faire partie de ce consortium. Il y aura des médias de la télévision, de la radio, de la presse écrite. Et c'est un projet qui est, mené par le vérificateur argentin Chequel, qui travaille en Argentine dans la vérification et se spécialise là-dedans depuis une dizaine d'années. Et par l'AFP qui s'en occupe aussi depuis la campagne française en 2017 avec le cross-check qui avait été créé.
Et depuis quand êtes-vous installé en Amérique latine ?
Moi, personnellement, depuis 18 ans, mais l'AFP fait de la vérification en Amérique latine depuis juin 2018, c'est-à-dire un peu moins d'un an après s'être lancé seul en France, en novembre 2017, après l'expérience du cross-check pendant les élections françaises. Donc en juin 2018, l'AFP s'est installée au Mexique, au Brésil et en Colombie, trois pays qui passaient qui vivaient un processus électoral important, où la population est assez polarisée, l'opinion publique est très partagée, parce qu'il y a des sujets de corruption, il y a des accords de paix avec la Colombie et beaucoup, énormément de violence, par exemple, au Mexique, et la problématique des migrants que vous avez évoquée, qui sont assez des sujets centraux dans l'actualité. Et donc, dans le cas de l'Argentine et bientôt dans le cas de l'Uruguay, qui aussi aura des élections en fin d'année, nous avons décidé de faire partie de de nous associer à ce vérificateur qui est Chequeado pour aider les médias argentins à produire eux-mêmes des vérifications de contenus qui sont créés avec une mauvaise intention, dans l'intention de faire changer, d'avoir une incidence sur l'opinion publique et éventuellement sur les élections.
Donc ce projet s'appelle Reverso, qu'on pourrait traduire le revers de la médaille. Quelles sont les techniques de recherche pour vérifier les sources, vérifier la fiabilité des informations ?
Alors, tous les médias qui vont faire partie de ce consortium sont obligés, s'engagent à suivre un cours qui va être donné à partir de cette semaine dans différentes provinces du pays. C'est un cours pendant lequel on apprend des techniques de vérification. On apprend à utiliser des outils, par exemple, pour faire de la recherche inversée d'images, parce que c'est souvent des images qui sont sorties de leur contexte, qui circulent, afin de tromper les utilisateurs de réseaux sociaux ou des consommateurs d'informations. Par exemple, récemment, l'ancienne présidente argentine Cristina Kirchner a présenté un livre au Salon du Livre de Buenos Aires et des photos circulaient montrant des dizaines de bus garés devant les installations du Salon du Livre, alors que ces photos avaient été prises bien, bien auparavant dans des contextes qui n'avaient rien à voir et même à des endroits différents. C'était pour faire croire, en fait, à une manipulation, à un coup monté des partisans de Cristina Kirchner qui auraient ramené du public et, disons, que ça aurait pas été un appui spontané de la population.
Pourquoi vous préférez employer désinformation plutôt que fake news ?
Parce que le terme fake news, enfin la notion de fake news, c'est plutôt l'expression qui est utilisée par les politiques ou par les personnes qui accusent justement les médias qui peuvent publier des informations qui peuvent être dérangeantes pour justement les politiques. Donc c'est plutôt le terme qui est employé pour accuser les médias qui essayent de faire un travail de vérification. Nous, on préfère utiliser le terme de désinformation, disinformation en anglais, désinformation en espagnol, pour véhiculer cette notion de tromperie. de coûts montés. Dites-moi.
Est-ce que vous avez déjà un retour sur l'impact de vos projets ailleurs? Bon, en Argentine, c'est peut-être c'est trop tôt puisque ça va être lancé cette semaine, mais dans les autres pays?
Alors, l'AFP fait partie de plusieurs projets. On a été en Espagne avec Comprovado pour les élections du mois d'avril. On a été aussi au Brésil pour le projet Comprova, qui a été un projet dont on fait partie 24 médias et dont nous avons déjà un petit retour, mais des analyses des contenus sont encore en cours. Il faut savoir que c'est très difficile d'avoir accès à des données puisque énormément de ces fausses informations circulent dans des groupes sur Facebook fermés ou sur WhatsApp qui est une plateforme privée. Donc, pour avoir une analyse correcte des comportements des utilisateurs, il faut pouvoir rentrer dans certains groupes, ce qu'ont fait plusieurs analystes au Brésil. Et les différentes analyses ont déjà pu montrer que pendant la campagne électorale au Brésil, seulement 8 à 9% des contenus, selon les contenus qui ont été analysés, étaient vrais. C'est-à-dire qu'il y a une majorité écrasante de contenus qui circulent qui peuvent être trompeurs ou complètement faux, partiellement ou complètement faux.
Et on terminera par ces mots. Merci Elodie Martinez, correspondante, je le rappelle, de l'AFP à Buenos Aires et coordinatrice donc de ce projet Reverso, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Nadine Epstein. On termine avec un mot de météo. Le temps de cet après-midi sera toujours instable. Alternance d'éclaircies et de passages d'averses, parfois marquées, voire orageuses. Quant aux températures en baisse, elles afficheront entre 13 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.